cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, le 1er juin 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
J'ai du mal à comprendre que d'un côté, l'homme est dans son être totalement dépendant de l'être premier, et qu'il est en même temps autonome dans ce qu'il a de plus radical. La substance est par soi. Les deux regards sont du point de vue de l'être. Pouvez-vous m'éclairer ? Bon. Comprenons bien qu'au point de vue philosophique, comment nous découvrons la personne? Voyons ce qui est premier dans l'ordre de l'être, selon la cause formelle. Et c'est la recherche de la substance. Avant cela, n'oublions pas, on avait découvert en philosophie du vivant qu'il y a en nous une âme distincte du corps, et c'était l'âme qui était source de notre autonomie. Le corps n'est pas source d'autonomie, il est au contraire source de dépendance. Nous sommes relatifs à nos parents par notre corps. Nous sommes relatifs au milieu culturel, par notre corps et notre sensibilité. Par le cinéma, nous sommes terriblement dépendants du milieu culturel dans lequel nous sommes. Cinéma, télévision. C'est le corps, hein, c'est la sensibilité, tout ça, ça parle beaucoup à notre sensibilité, notre imagination. Et nous avons beaucoup de peine à nous éveiller intellectuellement. On le sait. Et en tant que religieux, on s'éveille plus vite à l'attitude religieuse. Et notre vie intellectuelle n'est pas commode à découvrir notre autonomie. Et puis, nous découvrons la substance, l'autonomie dans l'être. Et puis, nous voyons que, par la vérité, nous sommes dépendants de quelque chose qui est autre que nous, l'être. Et nous sommes dépendants de l'être. Donc, autonomie dans l'être, dépendance dans la vie intellectuelle, dépendance à l'égard de l'ami, quand on l'aime, relatif. On est relatif à lui, on est en même temps autonome, mais on est relatif à lui. Donc vous voyez, ça joue depuis le début notre recherche philosophique. Cette dépendance et cette autonomie est constante. Il faut bien voir ça. Et vous les découvrez à des niveaux différents. Vous commencez dans une anthropologie à les découvrir au niveau de notre vie. On a une certaine indépendance. On est libre et on est dépendant. On obéit. Vous avez quand même obéi dans votre vie quand vous étiez tout petit. Vous étiez dépendant. Et puis, l'autonomie a grandi. Jusqu'au moment où vous êtes dit, maintenant, plus besoin du nid maternel et paternel, je m'envole. vous a exprimé votre autonomie. Votre autonomie est née de votre dépendance. Il y a eu d'abord la dépendance, puis l'autonomie. Vous retrouvez la même chose en philosophie du vivant. Vous retrouvez une dépendance première par votre corps, votre sensibilité, vous êtes dépendant. Puis l'autonomie de l'intelligence. Donc, autonomie et dépendance est tout le temps présent. En métaphysique ensuite, vous voyez, autonomie, dépendance. Et puis vous découvrez Dieu. Qu'est-ce que vous découvrez quand vous découvrez Dieu? Vous découvrez, première dimension, votre dépendance dans l'être, parce que vous êtes une créature. Et vous adorez Dieu. Donc, c'est la radicale dépendance dans notre être. Je suis créé par Dieu. Et je suis donc radicalement dépendant de ce premier amour qui est toujours premier amour, toujours actuel, qui est éternel du côté de Dieu et qui m'a créé dans le temps. Est-ce que cette dépendance radicale s'oppose à ce que j'ai constaté avant philosophiquement, mon indépendance substantielle? Mon âme est une substance. Est-ce que, en disant que je suis créé, je m'oppose à la substance? C'est là où je vous coince. Vous êtes obligé de reconnaître que votre dépendance radicale à l'ordre de Dieu est de l'ordre existentiel. Il n'y a rien de plus concret. C'est votre être. Votre être existant. Et votre être existant a ce cycle particulier de différence avec les animaux, c'est que vous avez une autonomie. Et cette autonomie s'est manifestée progressivement. Quand vous étiez dans le berceau, pas grande comme autonomie, hein. Et puis, en grandissant, votre autonomie a grandi dans l'ordre vital. Pas dans l'ordre de l'être. Vous êtes toujours une créature. Dans le berceau, vous étiez une créature. Dans le sein maternel, vous étiez une créature. Quand vous êtes né. Et après, toujours une créature. Est-ce que vous avez augmenté d'être créature? Posez-vous la question. Est-ce que vous êtes plus créature à 30 ans qu'à 1 an? Posez la question et répondez. Et vous dites, vous hésitez, hein? Je suis plus conscient, Jésus-Christ à Dieu. Mais est-ce que vous l'êtes plus? Non. Est-ce que votre relation de créature a changé? Je voudrais bien savoir. Vous avez conscience de l'être, mais est-ce qu'elle a changé? Alors, ce qui s'est développé, et ce qui a beaucoup changé, c'est votre vitalité. Votre vie intellectuelle n'est plus du tout la même. Hein. j'avais découvert qu'au point de vue de l'intelligence, vous développez, et que vous avez une liberté d'action aussi différente. Vous êtes libéré de vos parents. Vous êtes libéré de la famille. Vous êtes libéré du milieu que vous aviez forgé avec des petits amis. Vous avez acquis une liberté. Faire des vœux de religion, c'est un acte de liberté. On se libère de toutes les dépendances humaines. Un grand ciseau, on coupe tout ça. Puis je suis seul avec Dieu. Donc, vous voyez que la dépendance radicale à l'égard de Dieu, que vous voyez tout de suite au niveau sagesse, elle est radicale. C'est dans votre existence. Votre liberté et votre autonomie, elle est limitée. Parce que je voudrais bien ne pas mourir tout de suite. Est-ce que je peux ? Est-ce que j'ai un droit ? À mon être. Quand même, en grandissant, je m'aperçois qu'il y a des gens plus intelligents que moi. C'est bien de reconnaître ça, du reste. Premier pas vers l'humilité. Non, je suis plus intelligent. Alors que je me croyais petit coq. Vraiment un être exceptionnel. Je connais que dans ma volonté existe, elle est libre, mais elle est terriblement limitée aussi, parce qu'elle est dans un lieu particulier, et je ne peux pas être partout. Donc, vous constatez, dans un jugement de sagesse, la première chose qui existe, c'est cette dépendance radicale au point de vue du Créateur. Elle m'échappe. Je la pose, mais elle m'échappe. Je n'ai pas expérience de ça. Aucun de vous, vous n'avez eu l'expérience de votre dépendance à l'égard de Dieu comme créature. C'est trop dangereux, hein. Vous n'avez pas eu l'expérience, oui, du cordon ombilical qui m'unit à Dieu comme créature. Et pourtant, je l'affirme, oui, je suis un être créé et je dépends de l'acte créateur de Dieu, mais j'en ai aucune expérience. L'expérience que j'ai plutôt, c'est de ma liberté. Alors, j'ai aucune expérience de cette dépendance, mais j'ai une dépendance de me soumettre à Dieu. Mon intelligence a découvert l'existence de Dieu, ou ma foi a découvert l'existence de Dieu, et je dis, mon premier devoir, c'est de reconnaître cette dépendance en adorant. Il n'y a pas de premier devoir en dehors de ça. C'est radical. Dans un jugement de sagesse, c'est tout à fait premier. Je dépends de Dieu. Radicalement, dans tout mon être, toute mon existence, elle est relative à Dieu. Mais vous n'avez pas l'expérience. Vous avez l'expérience de votre réponse. J'adore Dieu. J'ai l'expérience de mon acte d'adoration. Et j'ai l'expérience que cet acte d'adoration, je le fais comme un acte essentiel, tout à fait premier, parce que je veux reconnaître ma dépendance à l'égard de Dieu. Je ne veux pas m'opposer à cette première dimension qui est capitale, qui est la plus profonde. Rien n'est plus profond que ça. Et je m'y soumets. Oui, jugement d'existence, je dépends de Dieu. Et directement, Dieu a créé mon âme directement, sans le passage de cause seconde. Mes parents, qui ont formé mon corps, et qui sont, par le fait même, engagés dans mon existence, mes parents ont reçu la création de mon âme comme un don de Dieu. À quel moment mon âme a été créée ? Ma mère ne s'en est pas aperçue. Demandez à votre mère à quel moment votre âme a été créée. Parce que, quand même, c'était la première personne qui a été intéressée à ça. C'est la première personne, plus que personne d'autre. Votre père, il vous a reçu quand vous étiez déjà un petit être vivant. Mais la mère... Et ça reste une question voilée, cachée. Alors, apologétiquement, ceux qui sont contre l'avortement, les bons chrétiens, qui sont contre l'avortement, les hommes honnêtes qui sont contre l'avortement, disent « l'âme est créée tout de suite ». C'est une des positions actuelles, mais je dis, c'est une position apologétique. Parce que je n'ai aucune preuve. Je n'ai absolument aucune preuve. Et le Saint-Père lui-même, dans l'encyclique sur la vie, dit que philosophiquement, je ne peux pas le préciser. C'est important de voir que je suis devant une affirmation que je ne peux pas préciser. Vous ne pouvez absolument pas dire, vous êtes peut-être la dernière personne de pouvoir dire à quel moment votre âme a été créée. C'est embêtant de dire ça, hein, c'est pas savoir ça. Vous pouvez savoir quand vous avez été conçu, biologiquement, par vos parents, mais quand votre âme a été créée. Et on voit que ça ennuie énormément les gens de ne pas savoir ça. Alors, ils disent théologiquement, ça n'a pas été révélé. Ça n'a pas été révélé. Dieu n'a jamais dit que l'âme a été créée à tel moment. Alors il dit, le mystère de l'Immaculée Conception. Ah, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. Mais le mystère de l'Immaculée Conception parle de la conception de l'âme. On est toujours bloqué avec les conceptions biologiques. Je ne sais pas, peut-être, ce qui est sûr, c'est que Marie n'a été touchée par aucun péché. Mais ça, c'est le théologien qui dit ça. Le philosophe ne peut rien dire. Il peux constater qu'il y a eu un être, une femme, qui a été parfaite. Mais vous n'avez pas beaucoup de témoignages. Saint Joseph n'a pas écrit. Il a constaté que, évidemment, Marie, mais comme il était fiancé, on dira, mais c'est pas étonnant. Le fiancé toujours trouve sa fiancée parfaite. Au bout de 10 ans de mariage, c'est différent. Mais sa fiancée est parfaite. Elle est immaculée. Enfin, on ne sait pas. Oui, c'est très important de respecter le mystère du côté de Dieu. Oui, c'est ce que fait le jugement de sagesse. Le jugement de sagesse regarde la certitude du côté de Dieu. La certitude, c'est que mon âme a été créée par Dieu. Et la réponse, c'est l'adoration. Alors, mon âme a été créée par Dieu. Je suis donc dans une dépendance radicale par mon âme à l'égard de Dieu. Créée bénévolement par Dieu. À quel moment ? Je n'en sais rien. Quel moment exact ? Je n'en sais rien. Peut-être. La science connaît le corps. Et la science est incapable de découvrir l'âme. Si la science pouvait me dire à quel moment l'âme est créée, non, elle ne peut pas. Parce qu'alors, nier l'existence de l'âme, ce serait aller contre la science. La science ne peut pas. La science voudrait, mais elle ne peut pas. L'âme lui échappe. Alors, c'est sûr que quand on regarde l'être humain, qui a pleinement conscience, le savant pourra, le médecin pourra dire que avoir bon moral, c'est très important pour pouvoir vivre. Si on n'a pas bon moral, c'est pas commode de vivre. Et que le bon moral est une condition très importante pour pouvoir vivre bien, parfaitement. Donc là, s'il parle de bon moral, il parle de quelque chose, pas uniquement psychologique. C'est très difficile à discerner, mais c'est quand même, ça peut se discerner. Alors là, le problème se pose. Comment découvrir l'âme? Mais le moment où l'âme a été créée, dans un jugement d'existence, dans un jugement de, je veux dire, de sagesse, je peux affirmer avec certitude que l'âme est créée par Dieu, qu'elle existe, qu'elle montre cette dépendance radicale à l'égard de Dieu, mais cette dépendance est source d'autonomie. Être dépendant de Dieu est source d'autonomie. Alors ça, vous voyez, le philosophe peut le dire, mais il faut distinguer l'être et la vie. Ce que Feuerbach a confondu, et c'est pour ça que pour lui, être dépendant et autonome, c'est contradictoire. alors qu'on est dépendant radicalement dans notre existence, dans notre être en acte, et qu'on est autonome dans la mesure où mon intelligence s'est développée. Plus votre intelligence s'est développée comme intelligence, pas comme intelligence mathématique. Votre intelligence mathématique ne vous rend pas plus autonome. Mais votre intelligence métaphysique, plus votre intelligence métaphysique s'est développée, plus vous êtes indépendant. C'est du reste pour ça que certains religieux disent « Surtout, ne développez pas trop la philosophie, parce que vous avez développé l'indépendance. » Alors après, ils n'obéiront plus. Et c'est vrai, le problème se pose, je suis tout à fait d'accord, le problème se pose, vous voyez, des religieux développant leur intelligence au point de vue philosophique, au point de vue théologique, et leur obéissance disparaissent. Si on pouvait tenir le graphique des deux, on verrait l'autonomie augmente, augmente, augmente. L'obéissance était parfaite dans le petit noviciat, comme petit novice était parfait, mais au bout de quelques années de philosophie, de théologie, ils n'obéissent plus. Ils ne s'en aperçoivent même pas. C'est vrai qu'il y a un danger, je suis tout à fait d'accord que l'autonomie s'acquiert, la liberté s'acquiert, l'indépendance radicale à l'égard de Dieu, c'est un état. On est dans un état de créature, c'est un état, je ne peux rien y changer. Et ça ne bouge pas. Hein. Mon âme dépendait totalement de Dieu. Dans le berceau, mon âme dépend totalement de Dieu. Quand je suis quelqu'un qui court à droite et à gauche, et la dépendance de Dieu touche cet état particulier d'être une créature. Et ma liberté, mon autonomie de personne, parce que si je n'ai aucune autonomie, je ne suis pas une personne, mon autonomie de personne a augmenté énormément. Du reste, prenez l'exemple tout simple. Vous ne suivez pas avec patience le point de vue politique. Quand il s'agit de voter, on est bien obligé de demander l'avis de ceux qui connaissent ces hommes politiques. Donc vous dépendez de la connaissance des autres. Votre acte de citoyen qui demande d'être libre n'est pas entièrement libre. Si vous avez quelqu'un, un ami, qui fait de la politique, vous vous fiez à lui. Et si vous ne l'avez pas. Dans le domaine où vous réussissez, vous êtes libre. Dans la connaissance pratique, la connaissance spéculative, métaphysique, n'augmente pas tout de suite ma liberté. Ça constate que je peux être libre, qu'il m'est possible de développer la liberté. Mais ça ne développe pas directement ma liberté. Ma liberté se développera grâce, pratiquement, grâce à l'amour, à la finalité que j'ai. Plus j'ai une fin profonde, plus je suis libre. Plus mon amour me permet d'atteindre cette fin, une fin profonde, je suis de plus en plus libre. Donc, première dimension de la personne au niveau sagesse. Je constate cette dépendance radicale d'être créé par Dieu. Dans mon âme. Et je réponds à cela par l'adoration. Oui, cette septième dimension devient la première dans un regard de sagesse. C'est normal, hein ? Je vous ai déjà dit plus d'une fois, il y a un ordre génétique et un ordre de sagesse. Et alors là, vous le touchez admirablement. C'est la personne humaine étant la réalité ultime dont je peux avoir l'expérience et avoir une connaissance métaphysique. C'est donc la réalité suprême que je puis constater expérimentalement. C'est à son égard que ces diverses dimensions, selon l'ordre génétique, sont juste différentes de l'ordre de ces dimensions selon l'ordre de sagesse. Et ça se voit à propos de la conscience que j'ai de ma radicale dépendance à l'égard du Créateur. Et ce sens que j'ai de ma liberté. Et mon acte d'adoration qui reconnaît cette dépendance souveraine à l'égard de Dieu est éminemment libre. C'est librement que j'adore. C'est librement que je reconnais qu'il y a en moi cette totale dépendance. Vous voyez, c'est au moment où j'ai le sens le plus aigu, le plus profond de ma dépendance à l'égard de Dieu, j'ai en même temps le sens de ma souveraine liberté. En même temps. Et ça, c'est le premier jugement de sagesse. Le premier par rapport à la personne. En effet, dans un jugement de sagesse, je regarde tout dans la lumière du Créateur. Et je vois que le Créateur entrait en mon âme. Cet acte était souverainement libre. Et que moi, prenant conscience de cela, connaissant que j'ai une âme créée par Dieu, j'ai conscience de cette autorité absolue de Dieu sur moi et de ma dépendance dans l'ordre de l'être, et que cette dépendance en dehors de l'être qui fait que je suis un être spirituel créé par Dieu, je suis un être spirituel, je suis un être créé par Dieu qui a un esprit, et prendre conscience que en tant qu'esprit j'ai une autonomie, je le saisis bien au moment même où je saisis que je suis totalement dépendant de Dieu. Dans mon intelligence, c'est la première dimension. Immédiatement après, je précise que mon corps manifeste, je dis bien manifeste, cette dépendance, mais qu'elle n'est pas cette dépendance. J'ai une connaissance directe de mon corps. Et par mon corps, je vois qu'il y a une autre dépendance accidentelle, conditionnelle, qui vient de mon corps. Et que cette dépendance, elle n'est pas radicale comme celle que j'ai à l'égard de Dieu, mais elle est celle que je constate le plus immédiatement, dont j'ai l'expérience le plus immédiatement, connaissance de mon corps. Par la connaissance de mon corps, je vois que je suis conditionné par le temps, par le lieu. Je ne suis pas éternel comme mon Créateur. Je suis dépendant du temps. Et je ne suis pas né dans le temps que j'aurais choisi. Je suis né, j'ai été créé à tel moment, indépendamment de mon plaisir. Mon corps a été formé par mes parents comme cause seconde, et comme réellement cause seconde. Et ont conditionné le développement spirituel de mon âme. Je ne parle pas du péché originel, je parle au point de vue philosophique. Le péché originel accentuera ça. Mais au point de vue philosophique, je constate que j'ai été conditionné, que je suis conditionné par mon corps. Conditionnement très visible du temps et du lieu. été conçu et créé au Moyen-Âge, j'aurais été conçu et élevé dans une crèche ou dans un château. Mon conditionnement est totalement différent, aurait été totalement différent. Je suis né à tel endroit, à tel moment, et je suis conditionné par ça. C'est très important de saisir qu'il y a un premier conditionnement. Le premier conditionnement de tout, ce n'est pas un conditionnement, la création de l'âme. C'est un état. Et c'est un état qui est source de ma liberté. Tandis que mon conditionnement de mon corps est conditionnement de mes limites, mais pas de la liberté. Ma liberté ne vient pas de mon corps. Tout ce qui vient de mon corps est limite. Donc, c'est le conditionnement substantiel que je constate dans un jugement de sagesse. Et je distingue très bien l'état de créature et le conditionnement d'un corps humain. Le conditionnement du corps humain est accidentel. L'état de créature est substantiel. Il touche mon être. Parce qu'il a de plus radical, de plus être. Je peux modifier mon conditionnement corporel. Il a changé beaucoup depuis mon berceau. Et il se modifie si j'ai une bonne santé ou si je suis au contraire avec un atavisme très douloureux ou je suis un être maladif ou je constate que mon corps me limite beaucoup plus que je le pensais. Parce que j'ai très peu de santé. Je constate que mon corps, il a une mémoire du temps. Si je suis vieux, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, j'ai un âge. C'est un terrible conditionnement, ça. Je ne peux pas changer. Et je suis né dans tel milieu, avec telle culture, je ne peux pas changer. On aurait pu le modifier, c'est sûr. J'aurais pu être adopté par une autre famille. Je ne l'ai pas. Était tout le conditionnement du lieu et du temps. C'est un conditionnement substantiel. Il joue tout le temps et est là pour me porter, mon corps porte mon âme, et mon âme porte mon corps. Quand je suis très fatigué, mon âme a beaucoup de peine de porter mon corps. et je m'endors. Quand, au contraire, je suis très éveillé, mon corps, mon âme porte mon corps. Donc, dans ce conditionnement substantiel, il est relatif. Et ce conditionnement a du plus et du moins en raison de ces deux éléments qui sont je vois ensuite que après mon corps et à cause de mon corps, il y a tout un conditionnement de lieu et de temps qui vient en conséquence de mon corps, le conditionnement de la famille, le conditionnement de l'État. Et tout cela provient du corps. Et c'est un conditionnement. Être né justement au moment où le pays dans lequel je suis est terriblement conditionné par l'ennemi. Ceux qui sont nés au moment de la domination soviétique. C'est un conditionnement qui demeure et qui marque. Parce qu'on est entouré d'ennemis, et d'ennemis qui se cachent. Quand les ennemis se manifestent, c'est facile à répondre, du moins, c'est plus facile. Quand les ennemis se cachent, c'est très difficile. Alors ça crée une espèce d'inquiétude, ça crée une impossibilité d'avoir confiance en soi et dans les autres. Et ça peut être très radical. Et ça joue beaucoup pour la formation de la personne. Vous voyez, dans un jugement de sagesse, après le fait de la créature, je vois tout de suite la place du corps humain, pas seulement du corps biologique, du corps humain, c'est-à-dire du corps animé par l'âme, du corps transformé par la famille, du corps transformé par la culture humaine. Et puis, biologiquement, le corps ayant santé ou étant au contraire très malade. Et ça aussi conditionne énormément le point de vue de la personne. Dans l'ordre du conditionnement. Troisième dimension, l'éveil de mon intelligence. Dans l'ordre pratique, l'éveil de mon intelligence au point de vue artistique. Très vite, le gosse joue. Le jeu est lié au fait de créer son milieu, on réalise un milieu particulier, artificiel, secondaire, qui provient de ce que l'homme, la personne humaine, est capable de faire. Vous voyez, c'est un moment extrêmement important, puisque jusque-là, on subissait. L'âme doit subir le corps, doit subir un corps qui a de la peine à vivre, ou un corps qui déborde de santé. L'âme subit ça. Et elle subit par le corps l'influence du milieu, le fat ferré, l'activité du fer de l'artiste vient subitement mettre ce sens de la conquête. On conquiert le milieu, on ne le subit plus. On réalise avec, on réalise quelque chose avec, on réalise un certain fatuité. Très intéressant de remarquer comme l'enfant vite joue. Et joue en faisant un mythe, la naissance du mythe. Il raconte une histoire. Il raconte son histoire. Et il a besoin de petits camarades. Il a besoin d'aide. Il y a les deux aspects qui, ordinairement, sont dépendants. Ils sont dépendants l'un de l'autre et qui sont dépendants, qui ensemble on fait quelque chose, ensemble on réalise quelque chose. Vous voyez, il y a deux dimensions qui s'acquièrent très vite. La dimension de la réalisation de quelque chose qui n'existe pas et qui peut exister. Et pour cette réalisation-là, on s'ouvre aux voisins, aux petits camarades, en faisant ensemble. Cela se réalise dans le jeu, mais se réalise vraiment de cette manière-là que l'homme dépasse très vite son milieu. Et vous voyez, dépasse très vite son milieu s'il est très surveillé. Il est dans un milieu où l'on a peur qu'il se développe par lui-même. Il sera retenu. Il sera handicapé. Si au contraire, le milieu dans lequel il se trouve et plus ouvert, on favorisera cela. Et donc, le caractère de découverte et de développement est très différent. Mais on voit tout de suite ces diverses dimensions. Vous voyez, il y a l'autonomie, il y a le corps substantiellement qui joue le rôle d'être le corps qui subit, le corps qui favorise. Vous avez, par rapport au milieu dans lequel on est, cette possibilité de dépassement dans le fatuéré, cette possibilité de dépassement dans la durée. Ces deux activités sont une manière de dépasser le conditionnement. Et c'est évident, surtout, il se développe de façon très différente. On favorise le jeu, on favorise le goût de faire quelque chose. Les grands, en voyant ça, peuvent ou s'arrêter et trouver que c'est très beau. C'est donc la vie des aînés, ou au contraire, de considérer que ça n'a pas de sens. Il y a toujours pour nous une possibilité de développement et d'acquérir une certaine indépendance dans le fatuéré et dans la durée. On est deux et on réalise quelque chose de nouveau. Donc, on voit très vite ces dimensions qui existent toute notre vie. Nous pouvons tout le temps avoir un sens de découverte, de faire quelque chose qui dépasse le milieu dans lequel on est. Et on le voit, on peut le faire seul ou demander de l'aide. Alors, c'est la naissance de l'éthique et la naissance de soutenir et d'aider.